franceinter.fr.
Le journal Sébastien Logeni.
Bonjour à tous. À la une de ce journal, des habitants calfeutrés, des arbres arrachés, des bateaux balayés, un nouvel ouragan souffle encore sur les Antilles. Maria, un ouragan monstre qui se situe actuellement aux alentours de la Guadeloupe, qui a déjà frappé la Martinique, mais heureusement, sans faire de gros dégâts, on fera le bilan en début de journal. Autre grand titre dans cette édition, les ambiguïtés d'Aung San Suu Kyi. Premier discours du prix Nobel de la paix à propos de la crise des Rohingyas. Explication de texte avec Claude Guibal. En France, une forte actualité judiciaire, le début du procès sous tension de 8 manifestants ultra-radicaux accusés d'avoir incendié une voiture de police pendant la mobilisation contre la loi El Khomri. Révélation France Inter autour d'un obscur protagoniste lié aux attentats parisiens de 2015 et le gouvernement qui cherche à pénaliser le harcèlement sexuel de rue. Au menu également, comment penser les transports au 21e siècle? Les assises de la mobilité commencent aujourd'hui. Notre invité dans ce journal, Nicolas Louvet, spécialiste des nouvelles mobilités. Enfin, des questions chez les salariés de Pôle emploi qui craignent un dégraissage massif et de la musique avec un festival de piano dans la ville de Toulouse. Quelques mots de météo, Elodie Calac, c'est toujours frais.
Eh oui, les températures trop basses pour la saison, 13 à 23 degrés en allant du nord-est vers la Méditerranée. On a des averses et des orages dans l'est, du soleil pour la Méditerranée et puis des éclaircies entre l'océan, Midi-Pyrénées, le centre, la région parisienne et le nord de la Seine.
Merci Elodie, prévision complète en fin de journal, bienvenue dans le 13h. C'est le quatrième ouragan qui fait la une en à peine 3 semaines après Harvey, Irma et José. Maria est en train de balayer la mer des Caraïbes et en particulier les Antilles, un monstre de catégorie 5, le maximum. Après avoir touché la Dominique et la Martinique ce matin, l'ouragan Maria donc touche en ce moment la Guadeloupe avant de prendre la direction des îles Vierges et de Porto Rico. Bonjour Mathilde de Hémy.
Bonjour Sébastien.
Alors que sait-on exactement de la trajectoire de Maria et des dégâts qu'il a déjà provoqué aux Antilles françaises?
La trajectoire de Maria est versatile, incertaine, ce sont les mots des autorités françaises. Ce qui rend bien sûr tout bilan encore difficile. L'ouragan est au large de la Guadeloupe. Il progresse à 15 km/h. C'est très lent. Nous avons pu joindre il y a moins d'une heure Sarah, réfugiée dans un centre de Saint-Claude au sud de la Guadeloupe.
Encore beaucoup de vent, il pleut beaucoup, on ne voit pas très loin. Le soleil commence à se lever. On n'a pas dormi de la nuit. Ça tremble, on voit un peu des arbres par terre, les photos sont toujours debout. Ça continue de pleuvoir et maintenant on est toujours confiné. Bon, on n'a pas eu trop de coupures au niveau internet, tout ça. Tous les amis sont sur les réseaux sociaux. On essaye de se rassurer comme on peut ou dire les dégâts qu'on a chez soi. On va pas faire les braves, hein, ça fait quand même assez peur.
Pas de bilan officiel pour la Guadeloupe, les communications restent difficiles. Le préfet directeur général de la sécurité civile, Jacques Witowski, vient de donner à Paris en revanche des nouvelles de la Martinique.
Ce sont essentiellement des dégâts classiques dans ce type de circonstances, à savoir des coupures électriques. Environ 25 000 foyers ont été privés d'électricité. Deux communes, Morne-Rouge et Gros-Morne, ont été privées d'eau potable. Donc, ce sont des éléments qui sont en remise en état. Et bien sûr, un certain nombre de pylônes de télécommunications ont pu souffrir.
On déplore aussi 2 blessés très très légers, l'île est toujours paralysée, mais le trafic aérien des secours devrait bientôt reprendre également vers les îles du Nord de Saint-Barth et Saint-Martin.
Alors il y a une autre île dont on ne parle jamais qui a été, semble-t-il, très durement touchée par Maria, c'est la Dominique, à mi-chemin entre la Martinique et la Guadeloupe. Une ancienne colonie britannique au niveau de vie très faible. Que sait-on du bilan là-bas, Mathilde?
Là, c'est vraiment très compliqué d'avoir des informations. On craint un bilan lourd. L'œil du cyclone est passé sur la Dominique. Nestor a posté une vidéo sur les réseaux sociaux il y a plusieurs heures. Il est confiné chez lui. Il explique que l'ouragan est pire que Erika en 2005, qui avait dévasté l'île faisant 31 morts.
Plus d'électricité, plus d'eau. Je pourrais partir, mais c'est très dangereux. Priez pour nous, s'il vous plaît. C'est tout ce que je peux dire.
Le premier ministre de Dominica a été évacué. Son toit a été soufflé, comme ceux de dizaines et de dizaines d'habitants. Il a lui aussi posté un message pour rassurer sa population. Message qui laisse présager le pire. La Dominique, dit-il, a perdu tout ce qui pouvait être perdu. Je crains des blessés et des morts à cause des pluies torrentielles. Nous avons besoin d'une aide médicale d'urgence, d'hélicoptères. Désormais, Sébastien, tout toute communication vers la Dominique et sont coupées.
Merci Mathilde Noémie. Puis rappelons encore une fois les consignes des autorités, ne sortir sous aucun prétexte et rester confiné. On le disait, Maria se déplace très lentement, 15 km/h seulement. Et vous l'imaginez, l'inquiétude est déjà très grande à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, déjà ravagés par Irma. Normalement, l'ouragan Maria devrait passer au sud des deux îles. Sa trajectoire évolue, on le disait, d'heure en heure. Alors les habitants de Saint-Martin se préparent quand même. Les autorités également. Interdiction de circuler toute la journée jusqu'à demain matin. Leur reportage de Béatrice Duguet.
Délibérément, la préfecture et la collectivité territoriale retiennent l'hypothèse la plus pessimiste, c'est-à-dire une modification de trajectoire qui déverserait des trombes d'eau sur l'île. Daniel Gibbs, le président de la collectivité, explique pourquoi l'alerte rouge est déclenchée.
J'ai rappelé que notre station météo est en panne, que 2 heures avant l'événement, on n'aura pas la trajectoire exacte. On s'est préparé au pire et on voudrait que la population reste confinée de la même manière qu'on l'a fait pour Irma. La même manière, ça doit être respecté pour Maria.
Respecter, ça veut dire ne pas circuler du tout. Même le matin, avant Maria, les services de l'État et de la collectivité ont besoin de travailler, donc de circuler sans encombre, précise Anne Lobiès, la préfète de Saint-Martin.
Les services de l'État comme ceux de la collectivité travaillent pour curer les ravines qui se sont comblées à cause d'Irma, pour éviter les effets d'embâcle, parce que c'est un cyclone d'eau, donc avec des risques d'inondation, et il faut absolument que nous évitions les obstacles à l'écoulement de l'eau. C'est le temps de l'action pour les services d'État et de la collectivité.
Les habitants des zones à risque, zones inondables ou submersibles près de la mer, mais aussi tous ceux qui n'ont plus de toit digne de ce nom, sont invités à rejoindre des endroits sûrs, chez des amis ou dans les abris, sachant que des 9 disponibles avant Irma, il n'en reste que 4 aujourd'hui. Saint-Martin, Béatrice Duguay, France Inter.
Un concert de solidarité est organisé ce soir par France Inter et France 2, un parterre de stars au Casino de Paris pour venir en aide aux sinistrés. Patrick Bruel, Laurent Voulzy, Kassav ou encore MC Solar ont répondu du présent, Ensemble pour les Antilles, un concert à suivre sur Inter à partir de 21h et un dossier bien sûr à retrouver sur notre site franceinter.fr. Aung San Suu Kyi est-elle encore digne de son prix Nobel de la paix? La question se pose depuis le début de la crise avec les Rohingyas, cette minorité musulmane persécutée depuis des décennies en Birmanie. La dirigeante birmane est sortie de son silence pour la première fois ce matin depuis Rangoon. Un discours très attendu, mais un discours très ambigu. Aung San Suu Kyi se dit prête à organiser le retour des civils Rohingyas qui ont fui vers le Bangladesh. Elle condamne également toutes les violations des droits de l'homme et dans le même temps, elle défend l'armée birmane et conteste les abus. Une politique de l'autruche selon Amnesty International. Alors ce qui est sûr, Claude Guibal, c'est qu'Aung San Suu Kyi semble prise entre le marteau et l'enclume.
Mais difficile, Sébastien, de savoir ce qu'il en est vraiment, à moins d'être dans la tête de Aung San Suu Kyi. L'admiration dont elle faisait jusqu'ici l'objet occulte souvent le fait que cette prix Nobel de la paix, récompensée pour son combat face à la junte birmane, ne s'est en fait jamais particulièrement ému du sort des minorités ethniques dans son pays. Pour les Bama, l'ethnie majoritaire dont elle est issue, les Rohingyas ne sont même pas des citoyens de seconde zone, ils sont apatrides, sans aucun droit civique. En Birmanie, il faut le savoir, il y a plus d'une centaine d'ethnies, les Rohingyas mais aussi les Karen ou les Chan par exemple. Or, depuis son indépendance, ce pays considère toutes les rébellions ethniques qui s'agitent à ses frontières comme des menaces. Alors, s'émouvoir du drame Rohingya, c'est ainsi courir le risque pour Aung San Suu Kyi de s'aliéner sa base profondément bouddhiste et nationaliste. Il s'agit aussi pour elle de ne pas froisser l'armée, une armée qui, en fait, derrière la vitrine Aung San Suu Kyi, reste toujours aux commandes du pays. En incarnant le visage acceptable de la Birmanie, Aung San Suu Kyi a donc fait un pacte avec le diable. Elle lui a permis de redevenir fréquentable au niveau international, notamment pour les investisseurs. Un calcul très risqué qui montre aujourd'hui ses limites insoutenables, celles du sacrifice d'un peuple au nom de la réelle politique.
Claude Guibal du service étranger de France Inter. Et puis sachez qu'un jour dans le monde, l'émission de Fabienne Sintès reviendra ce soir sur le dossier birman. Ce discours de la leader birmane était très attendu à New York, aux Nations Unies, 72e Assemblée Générale de l'ONU. On attend aujourd'hui le discours des petits nouveaux et pas des moindres, Donald Trump puis Emmanuel Macron. On revient en France avec ces images qui avaient fait le tour du monde. Une voiture de police en feu, quai de Valmy à Paris. Un policier parant les coups de barre de fer, le tout en plein mouvement social contre la loi El Khomri. C'était le 18 mai 2016. 8 personnes sont jugées à partir d'aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. L'intention criminelle n'a pas été retenue. Âgés de 20 à 40 ans, les prévenus appartiennent tous à la mouvance antifasciste surnommée les Antifas, l'ultra-gauche radicale, dit la justice. Une mouvance qui sera là à l'extérieur du palais de justice de Paris pour soutenir ses militants. Sophie Parmentier, le procès s'annonce très tendu.
Exactement, avec un collectif Libérons-les qui a appelé à se rassembler tous les après-midi au Palais de Justice de Paris avant chaque début d'audience. Et pour l'instant, il y a devant nous plusieurs dizaines de soutiens, quelques capuches, quelques bonnets, mais aucun débordement pour l'instant. L'ambiance risque cependant de se tendre davantage dans les minutes qui viennent à l'ouverture de ce procès que des antifas voudraient donc transformer en tribune contre la répression policière. Alors ils seront au total 9 à être jugés, 8 présents et 1 absent en fuite. Et parmi les 9 prévenus, tous sont plus ou moins proches de cette mouvance ultra-radicale de gauche. Tous ou presque dénoncent les faits qui leur sont reprochés par un témoin principal, par un policier du renseignement infiltré dans leur cortège. Tous ou presque, 6 sur 9 en tout cas, disent que les enquêteurs se sont trompés, qu'ils les ont mal identifiés derrière leur capuche et que ce n'était pas eux qui ont sauvagement tapé sur la voiture de police à coups de plomb métallique avant de jeter un fumigène qui a enflammé tout l'habitacle. Les 2 policiers qui étaient à l'intérieur ont cru mourir et ils attendent des explications durant ces 4 demi-journées de procès, mais la plupart des prévenus n'ont pas l'intention de formuler des regrets. Ils s'estiment au contraire victimes d'une enquête politique et dans la petite foule de soutien devant moi, les parents d'Antonin et Angèle Bernanos rappellent qu'un de leurs fils prévenu a purgé 4 mois de détention provisoire pour avoir été pris pour un autre. Ils espèrent un procès plus apaisé, mais ils se disent inquiets à quelques minutes de l'ouverture.
Sophie Parmentier en direct du Palais de Justice de Paris. Le campement de Grande-Synthe évacué ce matin, 200 CRS mobilisés pour mettre fin à ce campement sauvage dans le nord de la France qui rassemblait près de 350 à 400 migrants. C'est une information France Inter. Nous vous révélions ce matin l'existence d'un mystérieux personnage lié aux attentats du 13 novembre 2015, un homme surnommé Abou Walid, mais dont la police ne connaît pas la véritable identité. Pourtant, Charlotte Piret, son rôle dans les attentats de Paris et de Saint-Denis semble capital.
Oui, c'est via cet homme que le coordonnateur des attentats du 13 novembre arrive en Belgique. Nous sommes alors en août 2015 et donc ce certain Abou Walid vient récupérer Abdelhamid Abaoud en Hongrie. Une fois à Bruxelles, les deux hommes poursuivent ensemble leurs préparatifs meurtriers. Abou Walid ravitaille les planques, puis apporte des armes, car à l'époque, avant le 13 novembre, les hommes préparent déjà une première attaque, l'attentat raté du Thalys. Abdelhamid Abaoud donne les ordres, mais c'est bien Abou Walid qui emmène l'attaquant du Thalys à la gare bruxelloise du Midi. Alors qui se cache derrière ce surnom? Les enquêteurs disposent de la description physique livrée par l'assaillant du Thalys à Ayoub El Kazani au juge. Assez costaud, les cheveux bruns plaqués en arrière, les yeux légèrement bridés. Je pense qu'il est d'origine turque, explique Ayoub El Kazani, qui ne le reconnaît cependant sur aucune des photos présentées par les enquêteurs. Il parle français et une autre langue, le flamand ou l'allemand. Il est possible qu'il soit belge, ajoute-t-il. Une piste belge prise très au sérieux par les enquêteurs qui espèrent avoir identifié cet homme clé. Si l'hypothèse s'avère juste, il s'agirait d'un homme déjà incarcéré en Belgique pour les attentats du 13 novembre.
Charlotte Piret du service police-justice, un dossier retrouvé sur franceinter.fr.
France Inter. Sébastien Logini.
Repenser les transports du 21e siècle, rien de moins. Voilà en résumé le défi gigantesque auquel le gouvernement commence à se confronter. C'est aujourd'hui que s'ouvrent les assises de la mobilité. Élus, collectivités locales, experts, associations, tout ce beau monde va étudier, débattre pendant 3 mois afin d'engager une action sur les 10 prochaines années avec l'idée de présenter un projet de loi d'ici début 2018. Le sujet est tentaculaire. On a choisi de se focaliser aujourd'hui sur l'une des attentes des ONG, favoriser les mesures pour le vélo électrique, en faveur du vélo électrique, un mode de transport qui a connu un vrai boom ces dernières années, notamment à Paris. Le reportage de Marion Aquilina.
À cette allure-là, Paris pourrait bien être la nouvelle Amsterdam avec des vélos électriques partout. C'est le constat du responsable du magasin Alternative Bike, Alexis Gross.
On voit qu'il y a vraiment de la demande, mais aussi le nombre de vendeurs de vélos. Quand on a des mailles, il y avait quoi, une quinzaine d'acteurs à Paris qui vendaient des vélos électriques. Aujourd'hui, n'importe quel vélociste vend des vélos électriques aussi.
À Paris, tout est fait pour qu'il y ait de nouveaux acheteurs, puisque la municipalité propose une aide à hauteur de 400 euros. Parmi ceux qui s'y sont mis, Marie, elle travaille dans le 10e arrondissement.
Maintenant, je m'en sers pour le travail avec ma charrette où je vais chercher les sacs, des fournitures parfois. Enfin, je m'en sers pas mal de ma charrette, ouais. On voit les trottinettes électriques, les vélos électriques. Tous les gens essaient de circuler de manière différente qu'avec la voiture ou le scooter.
Et la Fédération française des usagers de la bicyclette espère qu'aux assises de la mobilité, l'État va s'engager à faire encore plus pour les vélos. Olivier Schneider est le président de l'association.
L'indemnité kilométrique vélo, le bonus sur les vélos assistance électrique, mais aussi aider les collectivités avec un fonds vélo et aider les usagers à garder leur vélo en bon état avec un plan massif de stationnement sécurisé.
Des mesures simples qui pourraient, selon la fédération, répondre aux besoins, puisqu'en 2016, les ventes de vélos électriques ont décollé de 31%.
Le reportage de Marion Aquilina. Notre invité dans le journal, Nicolas Louvet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur, directeur du bureau de recherche Cité, spécialisé dans les mobilités et enseignant par ailleurs. Vous êtes même sorti de cours pour répondre à nos questions. Merci beaucoup. Je le disais, ces assises de la mobilité consistent à réfléchir à la future façon de nous mouvoir. Alors peut-être d'abord un constat, un diagnostic. C'est encore très compliqué pour les Français d'avoir un accès facile et rapide au réseau de transport local. En clair, accéder au bus, au métro, au TER. On dit que 40% des Français en général disent avoir du mal à accéder au transport collectif.
Alors en fait, quand on parle des Français, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a les Français qui habitent dans les grands centres urbains, qui eux sont plutôt très bien lotis par rapport à ce qu'on peut voir dans de nombreux pays européens ou du monde. Et puis il y a les Français qui habitent pas dans les grands centres urbains et qui forcément sont moins proches et ont une efficacité moins disponible de l'offre des transports publics.
Oui, qu'il faut différencier. On parle même de 75% de la population en zone rurale qui a du mal à accéder aux transports collectifs.
Ouais.
Alors, comment changer cette situation? Il faut ouvrir, en clair, ces transports traditionnels, je le disais, bus, métro, TER, tout ça, à d'autres formes de mobilité, c'est ça l'idée?
En fait, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que dans les usages, alors les assises de la mobilité, j'espère que ce sera l'occasion de ne pas se focaliser seulement sur l'offre, mais aussi de comprendre les usages. On voit que dans les usages, les gens sont de plus en plus multimodaux. C'est-à-dire que, fut un temps, quand on utilisait la voiture, on faisait tout en voiture. Quand on utilisait la marche, on faisait tout à la marche. Quand on faisait en transport public, on faisait tout en transport public. Aujourd'hui, ça reste les pratiques essentielles, mais quand même de plus en plus de gens zappent d'un mode à l'autre, facilement, et au sein d'une même semaine, au sein d'une même journée. Ils vont commencer en métro, ils vont finir à pied, ils vont prendre la voiture après. Donc en fait, on a des comportements multimodaux qui sont très intéressants parce que ces comportements multimodaux nous permettent d'avoir des usagers qui, eux, sont plus compétents en termes d'usage des différentes offres et donc seront mieux utilisés les transports en commun quand ils le sont disponibles ou quand ils ne sont pas disponibles, utiliser d'autres modes alternatifs.
Ça, c'est la révolution numérique qui est passée par là, évidemment, grâce au smartphone en particulier, j'imagine.
Alors oui, c'est le smartphone a facilité la donne et l'accès à tous ces services-là aussi. Donc l'offre se multiplie, mais pas que, parce qu'on voit bien que restera central dans la mobilité les transports publics et la voiture particulière. Ce qu'il y a d'intéressant aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas être manichéen en opposant les transports publics et les transports privés, mais au contraire, imaginez des solutions qui font que les transports publics peuvent intégrer les offres privées qui sont celles-là et qui ne coûtent rien à la collectivité.
Alors justement, est-ce que l'explosion des nouvelles mobilités dont vous parliez, hein, donc le voiture en partage, le transport à la demande, le covoiturage, est-ce que justement c'est parce que les transports en commun classiques, publics, ne sont pas assez efficaces?
Bah, c'est compliqué à dire, parce qu'on pourrait surtout supposer qu'ils sont de plus en plus efficaces, mais les gens réclament de plus en plus ils sont de plus en plus exigeants dans leurs attentes et dans leurs services, et ce qui fait aussi qu'ils sont pas fidèles. D'ailleurs, dans toutes les nouvelles offres, ils peuvent très bien se mettre à faire de l'autolib, et puis dès qu'un service type VTC Uber arrive, arrêter l'autolib pour faire du Uber, et ainsi de suite. C'est-à-dire que les offres sont tellement précises, fines et limite individualisées que les usagers sont de plus en plus exigeants, ce qui fait qu'ils critiquent l'offre de transport qui reste plutôt très bonne en France tout de même.
Alors vous disiez qu'effectivement le privé et le public allaient devoir de plus en plus finalement travailler ensemble. Qu'est-ce que ça pose comme problème par rapport justement au transport classique? Est-ce que par exemple il va falloir que les pouvoirs publics, je pense à la région Île-de-France, va devoir rembourser une partie des trajets Blablacar par exemple, si on doit prendre un exemple?
Bon, je pense qu'il faut pas réfléchir à subventionner les offres privées. Au contraire, il faut les intégrer dans l'offre publique. Je pense qu'elles n'ont pas besoin d'argent. L'enjeu d'une offre privée, c'est qu'elle soit rentable. Doit viser la rentabilité. Le public, justement, il subventionne. À partir du moment où il commence à subventionner en remboursant des trajets, ben, ça veut dire que c'est plus une offre privée, mais c'est une offre publique. Je pense qu'il vaut mieux laisser faire, en profiter, que de chercher à les subventionner.
Mais il n'y a pas un risque de privatisation rampante, entre guillemets, des transports publics?
Ben, alors ça, le risque, c'est pas parce que vous avez un service de VTC qui vous permet, par exemple, aujourd'hui, d'avoir des trajets le soir qui ne permettent pas les transports publics ou dans certaines destinations que n'offrent pas les transports publics, qu'il faut dégrader l'offre existante parce qu'on dit les VTC le feront. Non. Ce qu'il faut faire, c'est garantir l'offre existante au même niveau et la performer en profitant des offres privées alternatives. Parce que ça veut dire que si un jour l'offre privée disparaît, ben, l'offre initiale, elle n'est pas dégradée.
Est-ce que ça va coûter plus cher, en clair, pour les Français, à terme?
Là, bah, logiquement, non. Au contraire, ça devrait coûter moins cher. Mmh. Puisque, enfin, du moins, pas moins cher, mais du moins, ça permettrait d'investir moins dans l'avenir si on profite mieux de ces offres privées en les intégrant à l'offre publique. Alors, parce que quoi qu'il en soit, si on n'intègre pas l'offre privée dans l'offre publique, un jour, c'est l'offre privée qui intégrera peut-être l'offre publique.
Alors, sur le but de ces assises de la mobilité, on le disait au début, hein, c'est une feuille de route pour le gouvernement pour les 10 prochaines années. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement a les moyens de financer sa nouvelle politique de transport ?
Bah, s'il fait les assises de la mobilité, c'est que justement, il a peut-être pas les moyens de financer tout ce qu'il faudrait et que l'enjeu des assises, c'est de prioriser les investissements. Elles serviront à ça.
Ouais. Donc, en clair, ils n'ont pas les moyens.
Bah, en clair, en vue de tout ce que demande tout le monde, on peut supposer qu'il n'y a pas assez d'argent pour tout financer. Donc, on priorise les investissements. Ça sert à ça, les assises, à mon sens.
Merci beaucoup, Nicolas Louvet. Merci. Donc, je rappelle que vous êtes chercheur, directeur du bureau de recherche Cité. Vous pouvez maintenant retourner voir vos étudiants. Et un chiffre qui tombe bien pour illustrer la folie des transports en Île-de-France avec ce nouveau record de bouchons ce matin, 546 km d'embouteillage cumulé dans la région parisienne à 9h du matin, du jamais vu, sans raison particulière, sinon quelques averses de pluie. Se faire siffler dans la rue, se faire suivre avec insistance, un phénomène dont on peut presque dire que la moitié de l'humanité en a fait l'amère expérience, le harcèlement sexuel dans la rue, les femmes en sont des victimes quasi quotidiennes. Comment lutter contre cette forme de violence ? Marlène Schiappa réunit aujourd'hui un groupe de travail composé de 5 députés. Son idée, créer une nouvelle infraction dans le code pénal. Toujours dans l'actualité judiciaire, l'enquête sur des pilules contraceptives controversées a été classée sans suite. L'affaire avait commencé il y a 4 ans avec la plainte d'une femme victime d'un AVC et qu'elle avait à l'époque imputée à une pilule de 3e génération. S'en étaient suivies d'autres plaintes, mais le parquet de Paris a estimé que le lien entre ces pilules et les effets secondaires, troubles artériels et veineux notamment, n'était pas établi. Plusieurs femmes ont décidé malgré tout de saisir un juge d'instruction. À noter que ce soir, le téléphone sonne sera consacré aux défaillances médicales. En bref, en politique, Emmanuel Macron qui dégringole dans les sondages. Popularité en baisse de 14 points selon une enquête Odoxa pour France Inter. Jean-Luc Mélenchon, lui, devient la personnalité préféré à gauche avec 68% de bonnes opinions chez les sympathisants de gauche. Et voilà qui ne va pas arranger l'image du président. Il y a quelques jours, l'Élysée annonçait magnanime avoir abandonné sa plainte contre un paparazzi. Eh bien, selon une information de Mediapart, si l'action de la justice s'est arrêtée, c'est d'abord parce que l'enquête avait été classée sans suite. En politique, toujours la droite en pleine reconstruction se saisit à nouveau des questions sociétales. Dans une interview très remarquée à l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, Laurent Wauquiez fait un virage à 180 degrés et annonce qu'il n'a finalement plus l'intention d'abroger la loi sur le mariage pour tous. Revirement donc inattendu, mais stratégique. Estelle Schmitt, le nouveau cheval de bataille de la droite conservatrice, c'est donc la lutte contre la PMA pour toutes les femmes et la GPA.
Oui, Laurent Wauquiez, l'un des plus farouches opposants à la loi Taubira, maintes fois demandait son abrogation. Selon son entourage, s'il tempère ses propos, c'est pour des raisons pragmatiques, parce que si la droite revient au pouvoir en 2022, on sera 9 ans après l'adoption de la loi, il faut donc passer à autre chose. Laurent Wauquiez d'ailleurs reprend presque mot pour mot la position de François Fillon pendant la campagne. Le sujet, ce n'est plus le mariage homosexuel, mais plutôt d'empêcher la remise en cause de la filiation, en revenant par exemple sur l'adoption plénière pour les couples de même sexe et en luttant contre l'extension de la PMA, parce que selon la droite, elle mène directement à la GPA, la gestation pour autrui, au nom de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et si Laurent Wauquiez, candidat à la présidence du Parti Les Républicains, édulcore aujourd'hui ses propos, c'est aussi très politique. Il fait un geste vers les plus modérés de sa formation qu'il espère rassembler, et il donne des gages aux plus traditionalistes en répétant qu'un enfant reste le fruit d'un papa et d'une maman. Il sera d'ailleurs présent au meeting de rentrée de Sens Commun, l'émanation politique de la Manif pour tous. On le voit, les questions sociétales symboles des fractures à droite. Les plus hostiles au mariage pour tous sont aujourd'hui les plus durs envers la politique d'Emmanuel Macron. Les moins virulents sont bien souvent chez les constructifs, voire au gouvernement.
Estelle Schmitt du service politique de France Inter. Si la droite compte s'emparer donc des questions sociétales, la gauche, elle, n'est pas en reste. Sur les questions économiques, l'actualité en effet ne manque pas de controverses. Nouveau sujet qui s'annonce bouillonnant, la cure de minceur à Pôle emploi. Conséquence des économies budgétaires, 54 000 salariés qui pourraient bien se voir amputés de plusieurs centaines d'entre eux, avec en ligne de mire l'externalisation possible de certains services. Mais rien n'est fait à ce stade, Hélène Filly. Mmh. Le sujet reste hautement inflammable.
Ah oui, on peut le dire, ils sont perplexes, les syndicats. Un comité central d'entreprise est prévu vendredi. Sur le recrutement,
recrutement. Les syndicats renégocient en ce moment la classification des emplois pour suivre l'évolution des métiers avec des engagements sur les salaires. Ça ne va pas du tout dans le sens d'un dégraissage massif, s'étonne donc la CFDT, première organisation syndicale de Pôle emploi. La ministre du Travail, elle évoque quelques centaines de salariés en évolution en 2018. Sur un effectif de 54 000, c'est comme chaque année, rien de plus. Et Muriel Pénicaud dément toute volonté de privatiser l'entreprise. Tous ceux qui ont essayé s'y sont cassés les dents, préviennent les syndicats. Mais Pôle emploi sera bien confronté à une difficulté de financement. 10% de la collecte des cotisations d'assurance chômage remplissent les caisses du service public. Quelles conséquences aura leur suppression, décidée par le gouvernement? La perte sera-t-elle bien compensée par la hausse de la CSG? Les syndicats sont prudents, exigent des clarifications de la direction au plus vite, dès vendredi, lors du CCE. Pôle emploi confirme une légère baisse des effectifs en 2018. Quant au budget et à la stratégie des années à venir, elle renvoie à la négociation de la convention tripartite 2019-2021 Pôle emploi État Unédic qui commence l'année prochaine. C'est sans doute là que tout va se jouer.
Hélène Philly du service économique, merci. En bref, toujours en économie, chez Nokia, la mobilisation des salariés semble avoir payé. La procédure de plan social est suspendue jusqu'au 2 octobre prochain. Déclaration de Benjamin Griveaux, le secrétaire d'État à l'économie. Dans le dossier GMES, l'équipementier automobile creusois, notre radio locale à Guéret nous informe que les premiers salariés, eux, ont reçu leur lettre de licenciement. 157 lettres doivent être envoyées. Puis, autre info des échos, celle-là, la hausse du tabac. On connaît maintenant le mécanisme du gouvernement. Le prix du paquet va augmenter d'un euro en 2018 et de 50 centimes tous les 6 mois pour atteindre 10 euros en 2020. On termine en musique avec la 38e édition de Piano aux Jacobins à Toulouse. Un festival qui, depuis ses origines, a toujours cherché, à côté des valeurs sûres, à faire découvrir au public de jeunes artistes. C'est encore le cas cette année et tout spécialement ce soir avec Julien Brocal, un pianiste de 30 ans qui a construit un programme Chopin, Schumann et Borkiewicz. À Toulouse, Stéphane Iglesis.
Piano aux Jacobins a toujours misé sur les jeunes talents, même si cette année, il y a un peu moins de valeurs sûres. Non, les pianistes confirmés ne sont pas tous morts, et ce n'est pas qu'une question de budget. Catherine Dargoubet, directrice artistique de Piano aux Jacobins.
Piano aux Jacobins a comme vocation de faire découvrir des talents, et en particulier, bien sûr, des jeunes talents. Alors, au début de Piano aux Jacobins, il y a 38 ans, avec Paul Arnaud Péjouan, on invitait surtout des grands anciens pour fidéliser un public et des petits jeunes qui avaient pour nom Hélène Grimaud, Michel D'Alberto, des talents immenses d'aujourd'hui.
Julien Brocal, pianiste de 30 ans, cherche à travers son programme Chopin, Schumann, Borkiewicz à coller à l'esprit des compositeurs.
L'interprétation se fait à partir du texte. C'est d'abord important de respecter la partition et c'est au travers de cette partition qu'on va trouver cette porte secrète. On peut pratiquement toucher la source du bout des doigts, mais cette compréhension, elle ne peut se passer que vraiment par cette recherche de ce que le compositeur a écouté à travers notre écoute.
Piano aux Jacobins a décidé de s'ouvrir au jazz, aux musiques actuelles et à multiplier les lieux de concert, y compris aux Connexions, salle branchée toulousaine, qui va faire tousser les mémés du bel canto. Toulouse, Stéphane Iglesis, France Inter.
Le festival donc Piano aux Jacobins, c'est à Toulouse à partir de ce soir. Un dernier mot de sport, on sait où la finale de la Coupe Davis se jouera. Ce sera à Lille, entre la France et la Belgique, au stade Pierre-Mauroy du 24 au 26 novembre, sur un courant dur. Vous savez tout, quelques mots de météo dans un instant.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va?
Ça s'améliore par l'ouest, Elodie Calac.
Oui, le mauvais temps se décale entre l'Auvergne, le nord des Alpes, la Lorraine, l'Alsace, avec des averses parfois orageuses, de la neige dès 1500 mètres sur les Savoies. Entre le Nord-Pas-de-Calais, la Champagne, le Centre, le Limousin, le sud de Rhône-Alpes, quelques averses, plus de soleil. De la Normandie et de l'Île-de-France vers la Bretagne, Poitou-Charentes, le sud-ouest. Là, de bons moments de soleil au programme, en particulier près de l'océan. En Méditerranée, du soleil aussi, mais avec du vent jusqu'à 70-90 km à l'heure. Il fait encore frais, seulement 13 degrés à Besançon, 16 à Caen, Strasbourg, Lyon, 17 à Lille, Paris et Brest, 18 degrés à Limoges, 20 à Agen, à Toulon, 22 pour Montpellier, 23 pour Bastia. Demain, ce sera mieux, le soleil prendra l'avantage. Il faudra quand même attendre la dissipation de la grisaille matinale, en particulier dans l'Est. Et puis, autre bonne nouvelle, les températures commenceront à remonter.